Au quotidien, avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, 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 bonjour. C'est quatre fois bonjour parce que quatre fois bonjour, c'est mieux qu'une seule fois. Et j'ajouterais beurre. C'était pas chaud ce matin, hein?
Ben, oh, pas non, c'est vrai.
Ah, c'était le temps pour les ours. Je fais pas d'autres commentaires. Puisque je parle de météo, Mathieu, ben c'est pas chaud dans l'est du pays aujourd'hui. Maximum d'eau plus 10 degrés. Ben, un seul endroit dans l'est où c'est un petit peu plus chaud, c'est Halifax. Mais bon, il y a des probabilités d'averses partout en après-midi. Au Québec surtout, mais aussi au Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve et Labrador. Il y a même eu des flocons de neige dans le parc de Laurentide. Et on en annonce dans le nord de l'Ontario, notamment à Thunder Bay. Puis dans l'ouest, c'est plus chaud. Il fait jusqu'à 22 degrés à Regina, mais ne vous en faites pas, ne vous réjouissez pas, ça ne durera pas. Et puis, il y a des possibilités d'averses également sur la côte ouest. Je disais, Regina, on a annoncé jusqu'à 22 degrés aujourd'hui à Regina.
Wow!
Ouais, mais on ne déménagera pas là. Regina, Regina, viens donc voir par ici de l'assortiment de bébites. Bon, OK, on arrête cela. Hey, au sommaire aujourd'hui, grosse, grosse émission. On a des invités, beaucoup d'invités. Alors, on va recevoir Marianne Farreau, qui est fondatrice des fermes City Pousse. C'est vraiment un organisme intéressant, ça, qui fait de l'agriculture et essaie d'aider des personnes avec des déficiences intellectuelles à s'intégrer, à avoir une vie plus intéressante. C'est quand même important. Et on va aussi recevoir Jocelyne Cazin, ça vous dit quelque chose? La grande journaliste qui est devenue autrice de romans policiers. Je viens de lire son plus récent qui s'appelle Funestre récolte et on va en parler tout à l'heure. Il y aura la chronique, on a la chronique livre aussi avec Anne-Marie Aubin. Et on va parler d'économie parce qu'on s'attend peut-être à ce que le taux d'inflation qui va être annoncé aujourd'hui se baisse encore, ce qui augure bien pour une baisse des taux d'intérêt, alors aussi qu'on attend les résultats des ventes sur les marchés immobiliers aujourd'hui. Et ça aussi, ça devrait démontrer une baisse des ventes et peut-être même des prix. Et dans l'histoire, dans l'éphéméride d'aujourd'hui, en 1582, en Italie, c'est une grosse date, 15 octobre 1582. Je te l'ai dit tantôt à hors d'onde, alors tu peux deviner.
Oui, je n'aurais pas deviné, je pense.
C'est l'arrivée du calendrier grégorien, celui qu'on utilise encore, qui remplaçait le calendrier de Jules César, calendrier julien. Alors, le calendrier grégorien, c'est du pape Grégoire XIII. Ce qu'il y avait de nouveau là-dedans, c'est qu'on était rendu que il y avait comme 11 jours de retard. Et donc, quand on a changé de calendrier, imagine-toi que les gens, le 4 octobre, se sont couchés et se sont réveillés le 15 octobre, parce qu'on a ajouté 11 jours d'un coup pour rattraper le calendrier solaire. Cela dit, il y a toujours une année bissextile à tous les 4 ans. C'était comme ça dans le temps de Jules César, mais une exception. Il y a une fois de temps en temps qu'on saute l'année bissextile. C'est quand? C'est lorsque...
À votre fête?
Ah. Ça serait bien. Non, c'est quand l'année est divisible par 100, mais pas par 400. Alors, la prochaine fois, ça va être en 2100. Alors, je pense pas que je serai encore là. Je pense pas parce que, écoute, j'aurais 139 ans rendu là. Mais 138 parce que mon anniversaire est dans l'année, donc j'aurais 138 ans, mais on va sauter l'année bissextile à ce moment-là parce que pour rester à peu près en phase avec le calendrier solaire. J'ai quelques autres dates importantes. En 1844, le philosophe allemand Friedrich Nietzsche est venu au monde et un autre philosophe, celui-ci français, Michel Foucault, est venu au monde en 1926. Et en 1917, c'était l'exécution de Matari, célèbre espionne néerlandaise, condamnée pour espionnage au profit de l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. Waouh! Et on va célébrer aujourd'hui, c'est la création de la mère de Charles Debussy et la sortie du film Le Dictateur de Charlie Chaplin. On va en musique.
Me voilà une fois de plus seul sur scène à chanter pour vous l'amour, la mort, la haine. Vous êtes là à me regarder béat, à tous vous demander pour qui mon cœur bat. Mais un homme comme moi sait qu'il faut garder pour soi ses secrets, ses envies. Non, vous ne le saurez pas. Pour qui sont mes chansons, pour qui je souris, qui est cet être à qui je dédie ma vie, avec qui je rêve de partager mon lit. Quand la lune arrivait, que le soleil fuit. Même si j'aime bien vous parler de ce qui me plaît, même si je garde pour vous le plus grand des respects, il y a certaines choses que je ne dis pas que je t'aime. Les secrets ont cette qualité de rester muet. Mais j'avoue que j'ai un problème. Mon amour en moi se déchaîne. Mon cœur veut crier le nom de celui que j'aime, mais je lui en donne pas le droit. Combien de temps peut-on jouer au déni avant de voir l'attente gâcher nos vies? Est-ce un crime, une honte, une calomnie de garder secrète certaines de nos envies? Il faut croire que pour moi, prendre le risque d'un refus, d'un non je ne t'aime pas, fait trop peur, trop mal déjà. Laissez-moi vivre ma vie comme j'en ai envie. Laissez-moi seul me battre avec mes conflits. J'ai encore amplement le temps d'avoir mal, de faire d'un ex-amour un nouveau rival. Je suis un rêveur, mais pour moi la finalité n'est pas de voir chacun des rêves se réaliser. Mais seul chez moi, parfois j'en viens, oui, à me demander si je ne serais pas mieux le jour où je serais aimé. Mais j'avoue que j'ai un problème. Mon amour en moi se déchaîne. Mon cœur veut crier le nom de celui que j'aime, mais je lui en donne pas le droit.
C'était la chanson Le Secret, une chanson de Pierre Lapointe.
Dans la presse plus ce matin, puis ça fait pas mal de manchettes partout au pays, le gouvernement Trudeau a chassé 6 diplomates indiens en poste au pays, y compris le haut commissaire, sur fond d'enquête de la GRC, entourant l'implication présumée de New Delhi, la capitale de l'Inde, donc, dans des homicides, des extorsions et d'autres actes criminels de violence au Canada. Le gouvernement indien a aussitôt répliqué en expulsant aussi une demi-douzaine de diplomates canadiens, incluant le haut commissaire par intérim. L'Inde a fait une erreur monumentale en choisissant d'utiliser leurs diplomates et le crime organisé pour attaquer les Canadiens. C'est inacceptable de déclarer le premier ministre Justin Trudeau en conférence de presse au Parlement hier. Si le gouvernement canadien a pris la mesure exceptionnelle de montrer la porte à 6 diplomates d'un pays en théorie ami, c'est parce qu'il fallait qu'on vienne déranger, perturber et empêcher un modus operandi qui vise en particulier les membres de la diaspora sud-asiatique, a-t-il enchaîné. Le stratagème implique le gang criminalisé Bishnoi, qui trempe dans des exécutions extrajudiciaires hors des frontières de l'Inde, ont indiqué des sources gouvernementales canadiennes ayant requis l'anonymat, n'étant pas autorisées à discuter publiquement de l'épineux dossier canado-indien. À l'instruction du gouvernement de Narendra Modi, l'organisation recruterait des membres du crime organisé en sol canadien pour terroriser des membres de la communauté sikh qui militent en faveur de la création en Inde d'un État indépendant appelé le Kalista, toujours d'après ses sources. Et les 6 diplomates indiens qui ont été déclarés persona non grata par Ottawa étaient des rouages essentiels de ces opérations, allègue le gouvernement canadien. S'ils ont été expulsés, c'est parce que l'Inde a refusé de lever leur immunité pour qu'ils soient interrogés par la Gendarmerie royale du Canada. Compte tenu des risques pour la sécurité des Canadiens, nous avons signé des avis d'expulsion à 6 diplomates et agents consulaires basés au Canada, a expliqué la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly. Elle poursuit « Pour être clair, nous ne cherchons pas la confrontation diplomatique avec l'Inde, mais nous ne resterons pas silencieux devant des informations » que des agents étrangers soient liés à des efforts visant à menacer, à harceler, voire à tuer des Canadiens. Point final. L'ingérence de l'Inde sur le territoire canadien a éclaté au grand jour en juin 2023, alors que le militant sikh Hardeep Singh Nijjar a été assassiné devant le temple sikh qu'il dirigeait à Surrey, en Colombie-Britannique. Des individus de nationalité indienne ont depuis été interpellés par la police fédérale. Et malgré les efforts déployés par une équipe multidisciplinaire créée en 2024 par la GRC afin de contrer les homicides, extorsions et autres actes criminels de violence, la menace ne s'est pas dissipée, a signalé en conférence de presse le commissaire de la GRC, Mike Duhaime. Les enquêtes ont révélé que les diplomates et agents consulaires indiens établis au Canada ont tiré parti de leur position officielle pour se livrer à des activités clandestines, telles que la collecte de renseignements par le gouvernement indien, a-t-il ajouté. Les méfaits se poursuivent et constituent une menace importante à notre sécurité publique, a aussi regretté le patron de la police fédérale. Nous sommes arrivés à un point où nous estimons qu'il est impératif de confronter le gouvernement de l'Inde et d'informer la population. Alors, New Delhi riposte. La réplique du gouvernement Modi ne s'est pas fait attendre. La même médecine, l'expulsion, a été servie à 6 représentants d'Ottawa sur le territoire indien. Parmi les diplomates éjectés figure le haut commissaire intérimaire du Canada, Stuart Wheeler. Dans une tentative d'imposer sa version des faits, le gouvernement indien a annoncé en premier le départ de son haut commissaire, l'ambassadeur, pour les pays du Commonwealth. Le ministère indien des Affaires étrangères l'a en effet présenté comme un rappel plutôt qu'une expulsion. Les allégations en provenance du camp canadien, elles, ont été balayées du revers de la main. Maintenant que ces allégations sans précédent ont été rendues publiques, tout est en place pour une nouvelle escalade des tensions entre le Canada et l'Inde, constate Vina Najibullah, qui est vice-présidente de la recherche à la Fondation Asie-Pacifique du Canada. Et le gouvernement canadien, qui ne peut se mesurer aux gens indiens, aura besoin de ses alliés du G7, en particulier des États-Unis. Encore une tuile pour la relation, donc. Cette énième querelle entre New Delhi et Ottawa survient alors que Justin Trudeau s'apprête à témoigner pour une deuxième fois devant la commission d'enquête sur l'ingérence étrangère. L'Inde estime qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence que ces allégations fassent surface à l'approche de cet exercice. Concrètement, elles surviennent à quelques jours après le sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, une rencontre en marge de laquelle le premier ministre canadien s'est brièvement entretenu avec son vis-à-vis indien. La relation canado-indienne est glaciale depuis des années et s'est envenimée encore davantage en septembre 2023 lorsque le premier ministre a affirmé détenir des preuves crédibles que l'Inde avait commandité le meurtre d'Hardeep Singh Nijjar. Dans les jours qui ont suivi, le gouvernement Modi a unilatéralement révoqué la protection diplomatique de 41 diplomates canadiens installés en Inde. Si Ottawa a semblé isolé dans la foulée de l'affaire Singh Nijjar, il a été publiquement appuyé par les États-Unis et le Royaume-Uni après l'accroc à la Convention de Vienne. Et le fait que les forces de l'ordre américaines aient fait dérailler un complot indien pour exécuter un militant sikh à New York a également donné davantage de poids aux allégations du Canada.
Moi, je te préférais. Peut-être moins parfaite, mais justement, t'étais pleine de doutes, t'avais pas d'argent, t'en avais rien à foutre, c'était pas important. Oh Julia, moi, je te préférais avant. Julia, t'as réussi ta vie. Mais moi, je te préférais avant. T'étais peut-être moins parfaite, mais justement. Maintenant, tu t'embourgeoises dans ton appartement. Est-ce que t'es fière de toi? T'as fait comme tes parents. Ouais, Julia, moi, je te préférais avant. Refait dans un miroir couvert de poudre blanche. Tu fuis ton propre regard, un sentiment étrange. Comme si quelque part une autre vie t'attend. Comme si quelque part tu mourrais tranquillement. Julia, t'as réussi ta vie. T'as réussi. Quelqu'un d'autre t'a réussi. Julia, t'as réussi ta vie. T'as réussi. Julia,
La chanson « Julia, je m'étouffe » de Alyosha Schneider.
Alors, c'est la chanson, il n'y a pas de « je m'étouffe hein, » dans le titre, hein?
Pas du tout.
Bon, je vous ai dit tout à l'heure en ouverture d'émission qu'on connaîtrait le taux d'escompte pour le mois de septembre, pas le taux d'escompte, excusez-moi, l'indice des prix à la consommation pour le mois de septembre. Bien là, imaginez-vous qu'on est passé sous la barre des 2 %, c'est à 1,6 % au Canada. C'est un recul de 4,4 points de pourcentage par rapport à août. Et au Québec, le taux, l'indice des prix à la consommation, lui, il est à 1,3 %, recul de 0,2 points de pourcentage. Alors clairement, on va en discuter peut-être un petit bout avec Michel Poitvin à la chronique économie un petit peu plus tard à l'émission. Mais maintenant, on va parler d'autres choses. C'est une entreprise agricole de Montréal qui lance une réflexion destinée à encourager l'intégration des personnes avec une déficience intellectuelle en entreprise. Ça s'appelle « Cultiver le changement une pousse à la fois ». Ah, j'aime bien ça. Pour en parler, sa fondatrice et présidente, Marianne Farreau, est avec nous en studio. Bonjour, bienvenue à l'émission.
Bonjour.
Alors, parlons d'abord, parce que moi, je ne connaissais pas Citypousse. Il y a pas mal de gens qui ne connaissent pas Citypousse, mais... Avant d'arriver là, je pense qu'il y a toute une histoire qui amène là, parce que vous êtes arrivé au Canada avec votre fille il y a quelques années, puis c'est là que vous avez décidé de créer cet organisme. Pourquoi?
Tout à fait. On est arrivé il y a 6 ans avec mon mari au Québec, donc on est français. On a décidé de venir s'installer à Montréal parce qu'on ne trouvait plus d'école, en fait, qui correspondait à ma fille à Paris. Et donc, on a trouvé le centre François Michel, qui est une école spécialisée dans la déficience intellectuelle légère. Et donc, elle a fait son entrée en 2018 dans cette école. Et de là, en fait, tout ce projet, notre fille nous a inspirés. En fait, on cherchait en fait un domaine avec mon mari, en fait, où on pourrait mettre l'inclusion au premier plan. Et c'est vrai qu'en arrivant au Québec, on commençait à faire notre course. On avait beaucoup de produits qui venaient de l'étranger. Et on s'est dit, pourquoi pas allier en fait l'agriculture urbaine, en fait, intérieure, à l'handicap, parce qu'on trouvait que c'était une jolie connexion. Et de là est partie l'idée de créer une ferme urbaine intérieure. Et on s'est dit, mais il faut aussi qu'on...
On parle donc d'une ferme urbaine en serre, c'est ça?
Non, travaille donc en système hydroponique vertical,
oui,
en fait.
D'accord.
On cultive des jeunes pousses.
D'accord.
Voilà. Donc, on n'est pas du tout en serre, on est dans un bâtiment, en fait, fermé. On est dans l'ancien quartier industriel de la mode,
oui.
Derrière le marché central.
D'accord.
Et donc, on a commencé à parler un petit peu de ce projet. Et puis, ben, quatre ans après, on a réussi, après avoir toutes les autorisations, à ouvrir officiellement la ferme. Mais je voulais vraiment créer aussi un espace où on puisse, en fait, montrer le handicap. Parce que je trouve que le handicap, il est trop souvent caché, je voulais vraiment représenter ça comme une force, en fait, comme un échange avec l'extérieur. Donc, comme on avait beaucoup d'espace dans le bâtiment, on a pris le parti de créer un grand espace qu'on a appelé la cabane Citypousse, qui est un kiosque de vente où on fait de la petite restauration, on vend nos pousses, on transforme aussi certains de nos produits, et ça permet aussi aux personnes qui y travaillent, en fait, de développer leurs habiletés sociales et d'avoir un échange, en fait, avec la communauté. Voilà.
Et puis, pour être clair, là, les pousses que vous vendez, c'est des gens comme Hop qui font... Moi, je fais de l'agriculture urbaine, j'ai un jardin derrière ma copropriété, donc je peux acheter vos pousses et puis...
On a de la vente aujourd'hui, on est en vente directe à travers nos kiosques. Je suis toujours en recherche de distributeurs parce que le marché est un petit peu tendu
vu
le contexte économique. Il faut savoir qu'il y a 4 ans, quand on a démarré ce projet... Le marché des pousses et des micro-pousses était vraiment...
On était en 2020, hein?
On était en 2020.
En pleine pandémie, alors que les gens...
Juste avant la pandémie,
parce qu'on a redécouvert l'agriculture urbaine.
Les micro-pousses étaient vraiment très demandées pendant la pandémie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est un petit peu moins demandé, hein, on ne va pas se le cacher. Donc, on part sur beaucoup de transformations de nos produits.
D'accord.
Parce que les micro-pousses sont très, très riches donc, en nutriments. Donc, on extrait, en fait... Voilà.
Je vais revenir à cette idée d'inclure des personnes en situation de handicap. Bon, qu'on dit en France, on dit PSH. Vous êtes fort, ces acronymes en France. J'en oublie bien ça. Mais les personnes en situation de handicap, vous avez donc une enfant qui, elle, est atteinte d'une déficience
intellectuelle. Oui, elle a une déficience intellectuelle légère et elle est sourde d'une oreille et malentendante de l'autre. Donc, elle est appareillée, en fait, des deux côtés. Donc, il y a une oreille où elle n'entend pas, quasiment pas, et une oreille où elle entend à 50%. Donc, ce qui a fait aussi beaucoup de troubles associés, un retard de langage, un retard de compréhension et des troubles d'attention.
Et il n'y avait
aussi pas
du tout d'école pour elle en France?
Non, parce qu'il faut savoir qu'en France, il n'y a pas d'école spécialisée comme on peut avoir sur Montréal.
C'est
où il y en a
sept. C'est étonnant pour un pays aussi développé.
Il n'y en a pas.
Oui.
On a beaucoup d'instituts médicaux éducatifs. Donc déjà, c'est pas du tout répertorié par handicap.
Ouais.
Et c'est vrai que moi, je le vois avec tous les jeunes que je croise du centre François Michel, ils ont tous des correspondances, en fait. Ils évoluent très, très bien ensemble parce que même si il y en a certains qui ont plus d'habilité pour la lecture, pour les mathématiques, on s'aperçoit que la déficience intellectuelle légère, ça, voilà, il y a des choses qu'on retrouve un petit peu, voilà, et je trouve ça plus simple, en fait, pour ma fille d'évoluer dans ce milieu-là. En fait, pour elle, c'est plus confortable, en fait. Ouais. Et ça lui permet d'évoluer aussi beaucoup plus. Et puis, ils ont surtout une partie Fédération Préparatoire au Travail, FPT, qu'on ne retrouve pas du tout en France, où d'accord, ils sont déformés dès l'âge de 16 ans jusqu'à 21 ans.
Bon, en retournant à votre entreprise,
ouais, c'est voilà.
Vous ne vous faites pas la tâche facile d'abord de faire des pouces, des micro-pouces dans un ouais, milieu urbain. C'est déjà c'est un gros défi. Et vous avez aussi mis le défi d'intégrer des personnes en situation de handicap. Ouais. Comment ça se fait? Comment vous fonctionnez avec ça?
Alors, aujourd'hui, compte tenu qu'on est en démarrage et qu'on n'a pas une activité énorme, on a deux sortes d'intégration. On est en partenariat avec le Centre François Michel, où nous on accueille, on est entreprise en fait partenaire accueillante. Donc il y a tous les mercredis, il y a un groupe de jeunes qui viennent avec leur éducateur et qui réalisent notamment tout ce qui est emballage. Voilà, donc on a mis en place des processus. Et parallèlement à ça, j'ai un adulte qui intègre l'entreprise trois fois par semaine et qui réalise plusieurs tâches. Il est beaucoup affecté au kiosque de fonte, mais on le forme aussi à certaines tâches qui sont liées à la production, où on arrive à intégrer, à extraire certaines tâches qu'ils puissent réaliser, accompagnés ou seuls, voilà, en fonction de notre activité.
Donc, vous leur apprenez beaucoup d'habiletés, mais qu'est-ce que vous apprenez, vous?
Moi, j'apprends... moi, c'est une leçon de fin. Je dirais que c'est
je ne parle pas avec vous, je parle de vous, votre conjoint et tout le monde.
On apprend, en fait. On apprend l'échange, ça nous enrichit. C'est une leçon de vie, en fait, au quotidien. C'est une relativité. Je veux dire, quand les jeunes arrivent avec un sourire jusque-là et transmettent leur énergie, ils ont une telle reconnaissance, en fait, au quotidien que... On se dit, mais en fait, que ça soit pour mes employés ou pour toutes les personnes, en fait, c'est une force, en fait. On apprend, on s'enrichit, en fait, quotidiennement en travaillant auprès de ces jeunes et ces adultes, en fait.
Moi, je vais reprendre une citation, en fait, un commentaire qu'avait fait Thomas Joly, lorsqu'il a ouvert les Jeux paralympiques, il a fait la cérémonie d'ouverture, et qu'il avait dit... le problème, ce n'est pas les personnes qui sont en situation de handicap, c'est nous, comme société, qui avons un problème parce qu'on ne les inclut pas convenablement.
Ouais, c'est ça.
Parce que ce n'est pas normal que quelqu'un ne puisse pas monter un escalier parce qu'il n'y a pas d'ascenseur, parce qu'il est en fauteuil roulant. Ça n'a pas de bon sens. Et on limite la capacité d'intégrer ces personnes.
Ben, c'est à nous de nous adapter.
C'est ça. Ben justement, alors, je pense que vous avez appris plein de choses parce que vous avez mis en ligne une page web, un outil qui s'appelle « Cultiver le changement, une pouce à la fois ». Qu'est-ce que c'est?
Ben, c'est un outil, en fait, qui est basé sur mon expérience et qui est là pour inciter, en fait, les entreprises à embaucher ou former, tout simplement, des personnes en situation de handicap en leur donnant des petites astuces, en fait. Donc, moi, je me suis basée sur l'intégration de ma fille et des jeunes, sur ma propre expérience, en fait. Et c'est sûr qu'en tant qu'entreprise, c'est sûr que quand on a des tâches à faire, il va falloir peut-être les décomposer, voir en fait ce qu'on peut leur donner à faire et ce qui serait en fait ce qui serait bénéfique pour eux et pour l'entreprise aussi. En fait, on peut pas dire on prend quelqu'un et puis on laisse, ça serait pas, enfin ça serait pas possible en fait. Il y a du travail, je dis pas que là, on se remet en question aussi. Au quotidien, en fait. On se dit, il n'est peut-être pas capable de le faire, mais comment on pourrait faire? Est-ce qu'il ne faudrait pas lui créer des pictogrammes? Est-ce qu'il ne voudrait pas lui créer son petit emploi du temps ou le former sur certaines choses? Et puis, il y a des choses que les personnes peuvent faire en autonomie. Puis, il y a des choses qu'on prend le temps de faire avec eux. Parce que moi, quand j'ai de l'inclusion dans mon entreprise, le but, c'est qu'ils en ressortent aussi formés et en fait plus forts. En fait. Donc, je prends le temps aussi d'échanger avec eux et de leur expliquer. Le groupe de jeunes qui vient le mercredi et qui fait l'emballage, je prends le temps, quand ils posent des questions, de m'asseoir avec eux, de leur expliquer ce qu'on fait en transformation, de partager des moments avec eux, parce que pour moi, ça fait partie aussi de la société, de l'expérience pour eux, et puis pour nous aussi. C'est pas juste dire, voilà, vous êtes là, et puis voilà, on se revoit la semaine prochaine. Non, ça fait pas... Donc, c'est du temps, mais du temps qui, finalement, est bénéfique pour tout le monde, parce que ça apporte...
C'est un temps bien investi.
Ah, bien investi. Oui.
Je lisais, on n'a pas beaucoup de temps là, encore, mais je lisais dans vos publications que vous dites aux gens, commencez par les tâches répétitives que la personne peut vraiment bien intégrer. Et par la suite, on ajoute une tâche ici et là.
Dès que la personne est capable de faire une tâche, on va ajouter une autre tâche. Et puis, on va y aller graduellement. Et puis,
et c'est une main-d'œuvre qui est dévouée.
Complètement dévouée, reconnaissante. Et puis, si on leur... ils ne vont jamais, en fait, essayer de déformer une règle. Moi, quand ils emballent 125 grammes, ça ne sera pas 126 et ça ne sera pas 124. Parce que, pour eux, c'est écrit 125. Et puis, complètement dévouée, reconnaissante. Et puis, tellement content, en fait... Et ils transmettent en fait une énergie en fait positive au quotidien en fait.
C'est une belle leçon de vie
au quotidien, et c'est ce qui nous donne la pêche aussi au quotidien de développer cette entreprise, de continuer et de
rapidement pouvoir. La cabane City Pouce, c'est où?
C'est au 98 55 rue Meilleur, donc au marché central, et on est ouvert tous les jours en fait de 7h à 16h.
Bon, voilà. On va prendre un café là. Ouais. Merci beaucoup, Marianne Farrow.
Merci à vous. Au revoir.
Alors nous, on va continuer après la pause. On va recevoir Jocelyne Cazin, qui va nous parler de son tout nouveau roman, Funeste récolte, publié chez Flammarion. Et on va aussi parler d'économie, de littérature, de paractualité. À tout de suite.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Excuse-moi, je sais que d'autres avant moi ont fait le test et qu'ils n'ont pas aidé mes plans, mais je t'en prie, reste. Laisse-moi t'ouvrir la porte et prendre ta fesse. Assieds-toi, rien ne presse. Quand je te vois, je le déduis de ton style flash, laisse ton cœur froid. De toute façon, tu sais du cash, moi j'en ai pas. Mon angle est bien beaucoup plus subtil que ça. Prends ton temps, écoute-moi. Quand je te chante, c'est avec toi que jamais, si tu permets. Crois-moi, car c'est ta place qui m'attire et tu le sais. Ça se voit, c'est avec place que je te désire, mais dans le respect. En tout cas, c'est avec classe et ça marche à chaque fois.
Chaque fois,
place que je te désire, mais dans le respect. En tout cas, c'est avec classe et ça marche à chaque fois.
C'était Aya Nakamura, Trinix et Corneille qui chantaient avec classe.
J'allais pour dire que ma prochaine invitée est passée de journaliste d'enquête à autrice d'enquête. Je ne sais pas si on peut dire ça. Je viens de lire un roman qui s'appelle Funeste récolte, qui est publié chez Fermarion Québec, qui a été écrit par Jocelyne Cazet. Je vais quand même la présenter. Bienvenue à l'émission.
Bonjour, Denis Martin.
Nous, on s'est déjà jasé. On se connaît un peu.
Oui.
Puis je trouve ça le fun.
Mais on s'est jasé par téléphone.
Par téléphone.
Parce que c'est la première fois que j'ai le grand plaisir de vous rencontrer.
Ah, ben c'est un plaisir partagé.
Bon, ben
alors, Jocelyne
bon.
Cazet, ceux qui ne vous connaissent pas, ils vont vous connaître
Cette entrevue. Il y en a des gens qui me connaissent
ben
pas.
Ben oui, c'est ça, ben oui.
Je leur donne le droit, hein. Ben...
Première journaliste qui a fait des reportages qu'on appelle de faits divers, des reportages policiers.
Oui.
Et première femme qui l'a fait, ça a l'air drôle de dire ça, mais il fut une époque où les femmes n'étaient pas nombreuses en journalisme.
Non, on n'était pas nombreuses et puis on ne nous voulait pas non plus... juste pour vous raconter une anecdote, moi, un jour, je passe une audition dans une station de radio que je ne nommerai pas et je ne nommerai pas le directeur de l'information parce que il existe encore et il est plus directeur de l'information, par contre. Et puis, il m'avait demandé d'avoir un petit peu une voix d'homme en onde. Alors, je lui avais dit, je m'excuse, j'ai pas ce qu'il faut entre les deux jambes. Alors, évidemment, j'ai pas eu l'emploi, mais non, c'est sûr que ça a été... ça a pas été un jardin de roses, puis ça a pas été un long fleuve tranquille. Ça, c'est certain, les débuts de ma carrière de journaliste.
Pour beaucoup... En tout cas, je veux pas trop qu'on... Parce que c'est pas de ça qu'on veut parler, mais je veux quand même dire que pour beaucoup de jeunes journalistes femmes de nos jours, qui ont quand même encore beaucoup de plafonds de verre à briser...
Absolument.
Vous avez brisé les principaux, puis là, ben, il y a encore du travail à faire, mais au moins, les choses se sont améliorées un peu depuis.
Ah ben, heureusement. D'ailleurs, en 1981... À la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, on avait organisé un colloque, les femmes et l'information, c'était perçons le mur du silence.
Ouch.
Ça, c'était donc la thématique du congrès et, j'espère que ce congrès a permis de commencer à changer les choses. Puis effectivement, après les années 80, on a commencé à avoir un peu plus de femmes dans le milieu de l'information, mais ça a pris quand même beaucoup, beaucoup de temps avant que l'on retrouve l'égalité au niveau des, je dirais, au niveau des emplois. Mais au niveau de l'équité salariale, on l'a pas encore, d'après moi.
Ah non, pas, oh non, c'est même démontré.
Entre
les
moi,
chiffres.
Je ne l'ai jamais eu.
Ça s'est démontré, hein. Puis moi qui ai travaillé à l'autre Réseau Radio-Canada, ça a été un gros problème, ça aussi, l'équité salariale.
Oui, bien, à TVA aussi.
Bon, puis on est tous des anciens d'une autre époque,
voilà,
mais bon,
on peut encore... dinosaures.
Mais on a le droit d'en parler. Alors, 5 travailleurs temporaires guatémaltèques embauchés par un fermier de Saint-Valérien de Milton. Là, je lis la quatrième de couverture, disparaissent. Alors, le fermier se tourne vers Blaise et Victor, les détectives privés de la firme, pour mener l'investigation. Puis là, on passe sur les traces de ces hommes-là. Puis on se rend compte que, oh là là, il y a un vaste réseau d'exploitation humaine.
Oui.
Moi, j'ai lu ce livre en 2 jours, à peu près.
Wow.
Ben, mais ça, je lis très vite parce que j'en lis beaucoup.
Oui,
mais
puis en plus, c'est écrit gros. Hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué les caractères.
J'étais pour vous remercier, Jocelyne, parce qu'à l'âge que je suis rendu, les caractères petits, j'aime moins ça.
Mais ça a été demandé. Moi, je l'ai demandé à mon éditeur Flammarion Québec et puis ils ont dit oui pour justement des gens qui ont besoin de lunettes et peut-être des gens un peu plus âgés. Mais de toute façon, je pense que tout le monde aime avoir des caractères un peu plus gros.
Oui.
Alors, c'est formidable parce que ça se lit facilement.
C'est plus accessible. Là, on parle d'accessibilité. On est d'une station de radio ici qui s'occupe beaucoup des gens aussi en situation de handicap. Et c'est pour beaucoup de personnes, c'est beaucoup mieux que ça soit publié.
Tout
que
à
ça.
Fait.
Mais au-delà de ça, moi, j'ai fait la réflexion quand j'ai terminé. J'ai dit, on peut bien sortir la journaliste de la salle de nouvelles. Mais mon Dieu qu'on ne sort pas la salle de nouvelles de la journaliste. On voit bien que c'est une enquêteuse qui a écrit ce roman.
Denis, vous avez tout à fait raison de dire ça et d'avoir eu cette pensée-là. Parce que justement, la journaliste d'enquête que j'ai été pendant plusieurs années de ma vie est allée sur le terrain. Moi, je suis allée à Dundee, près de Akwesasne. J'ai vu les marécages où peuvent arriver les migrants... soit les deux pieds devant, ou encore par chaloupe avec des passeurs. Je suis allée dans des fermes, j'ai visité des fermes de tomates, des fermes de fraises, je suis allée dans un vignoble, j'ai parlé avec un enquêteur de au crime majeur de la Sûreté du Québec. J'ai travaillé aussi avec une détective privée pour que elle m'aide pour au niveau de des filatures et tout ça. J'ai vraiment, et avec Stéphane Gendron qui m'a beaucoup aidée, Stéphane Gendron qui a été le maire de Huntingdon, oui, puis qui a été évidemment chroniqueur, animateur dans les stations de radio. Alors, il m'a énormément aidé à façonner ce livre-là. Alors, donc, c'est vraiment la journaliste d'enquête qui a aidé la romancière que je suis devenue à écrire Funeste récolte.
Le style est très intéressant. C'est écrit... Ah. Hein, c'est ça. Moi, j'écris aussi des romans, puis j'avoue que j'écris beaucoup de phrases courtes, oui, faciles à comprendre.
Voilà.
J'essaie de garder mes idées très organisées, et je l'ai remarqué dans le style, mais aussi dans le contenu. Jamais je me suis arrêté de dire, ben là, ça, c'est organisé avec le gars des vues. Parce que je savais que c'était... Parce que moi aussi, comme journaliste, je sais que c'est possible.
Oui.
C'était ça, c'est ça qui fait la beauté de ce livre-là. Ça pourrait être vrai tellement c'est précis.
Absolument, ça pourrait être un documentaire.
Ouais.
Mais c'est une fiction réaliste. Mmh. Alors, tout ce qui est écrit dans ce livre-là est réaliste, mais n'est pas réel. Autrement dit, la seule personne qui est réelle, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est Michel Pilon,
oui,
qui était directeur général du RATMAC, le réseau d'aide aux travailleurs migrants migrants du Québec. Lui, il m'a beaucoup aidé aussi, et j'ai décidé de garder son personnage dans ce livre parce qu'il est extrêmement pratique, et je lui ai demandé l'autorisation parce que je lui fais dire des choses, puis je lui ai lu ces choses que je lui fais dire, puis il m'a dit oui. Alors, donc, c'est la seule chose qui est réelle. Tout le reste, c'est de la fiction, mais réaliste. Donc, tout ce qui est écrit dans ce livre-là se peut. On entre donc dans le monde de l'agriculture illicite, le monde des mécréants. Malheureusement, il y en a. Heureusement, la majorité des agriculteurs sont honnêtes, mais il y en a qui traitent mal leurs travailleurs temporaires étrangers. On entre dans le monde des agences de placement illégales. Il y en a. Il y a 1500 agences de placement légales au Québec, mais il y en aurait quand même une trentaine qui fonctionnent de façon illégale. On entre aussi dans le monde du dark web, et ça, je vous avoue que moi, j'ai eu des surprises épouvantables. Je ne suis pas allée personnellement dans le dark web parce que je ne voulais pas contaminer mon ordinateur, parce que vous savez que à partir du moment où il faut changer le IP, là,
ouais, c'est ça.
Bon, tout ça. Mais alors, je suis entrée là-dedans, puis écoute, c'est le trafic humain, c'est le trafic de drogue, c'est effectivement des kidnappings de migrants ou de travailleurs temporaires étrangers. Et vous savez, il y a un problème au Canada, puis j'en fais part dans mon livre, ça existe vraiment. Le problème pour les travailleurs temporaires étrangers, pas seulement dans les fermes, mais tout ce qui est travailleurs temporaires étrangers, a un permis par l'employeur qui l'embauche. Autrement dit, si vous êtes un employeur de l'entreprise XYZ, vous engagez des travailleurs du Guatemala, eh bien, ils doivent rester chez vous.
Ils ne peuvent pas aller ailleurs. Permis fermé, qu'on appelle.
C'est un permis fermé. Mmh. Alors, si vous êtes un mécréant, OK, si vous traitez mal vos employés, eh bien, malheureusement, ils ne pourront pas partir parce que s'ils partent, ils risquent l'expulsion et de retourner dans leur pays. Et ça, c'est la réalité. Donc, il y a une intrigue avec des sous-intrigues. Alors là, c'est Blaise et Victor, qui sont mes deux détectives privés, qui vont enquêter sur la disparition de 5 travailleurs guatémaltèques qui travaillaient à la ferme de Jean-Baptiste Renault à Saint-Valérien de Milton, qui est entre sur la Vin, là, vous voyez ça, là, mm-hmm, entre Saint-Hyacinthe et Québec. Et là, on va se demander s'ils sont disparus volontairement ou s'ils ont été enlevés. Évidemment, on n'enlèvera pas le punch. Et puis là, évidemment, il y a une autre intrigue d'un agriculteur qui, lui, est assassiné. Et là, on va se demander s'il y a un lien à faire entre la disparition de ces 5 travailleurs guatémaltèques et le meurtre de ce fermier véreux. Puis il y a aussi un autre meurtre. Enfin, bref, il y a plusieurs sous-intrigues. Il y a pas mal de personnages. J'en ai compté 22, mais il n'y en a pas 22 qui sont importants, là.
Mais on n'a pas de difficulté à les suivre. C'est ça qui est intéressant. On n'a pas de difficulté parce que quand il y a 22 personnages, c'est un défi. Puis
oui,
ça, je pense que vous l'avez
surtout
dit
avec les noms que j'ai donnés.
Oui, c'est ça. Mais on va pas vendre le punch.
Non.
C'est le deuxième roman que vous écrivez.
Oui.
Dans les deux romans, moi, je le sais, parce que le premier roman, je vous avais invité à mon autre émission pour en parler. Mais dans les deux romans, vous avez mis des personnages de la diversité sexuelle.
Oui, ben, je trouve que ça fait partie de, ben, ça fait partie de ma vie aussi. J'ai été dans le placard pendant de nombreuses années, mais j'ai vécu avec des femmes aussi pendant une vingtaine d'années. Puis comme je dis, moi, j'ai plus de choix parce que je me promène d'une place à l'autre.
Parce qu'on appelle bisexuel, c'est ça.
On peut dire ça, mais c'est surtout Jocelyne. J'ai écrit ça dans, dans ma biographie, là. Finalement, je suis Jocelyne. Mais bref, oui, la diversité sexuelle, parce que je trouvais que le personnage de Victor Delamare, qui est quand même, si vous regardez sur Google, vous allez voir que c'est c'est une vraie personne qui a existé, Victor Delamare. Il était un haltérophile. Il a été moins connu que Louis Cyr, mais tout aussi, tout aussi fort. Et j'avais envie de placer cet homme quand même assez robuste, grand et tout ça, dans un personnage d'homosexuel, parce que je trouve que ça fait une couleur différente et amusante à ce personnage. Et Blaise Lecor, qui lui, c'est un maudit français. C'est un français. Ils sont pas tous maudits français.
Oh, mais on les taquine, on les aime.
Ben oui. Alors, et donc, lui vient de Lacoste, dans la région de la Provence. Ils se sont connus à l'Université de Montréal, à l'école de criminologie. Et il y en a un qui est hétéro, puis l'autre qui est homo. Pourquoi pas?
Pourquoi pas? Puis on est capable de s'entendre.
Bien, certains, j'espère.
Moi, je m'entends bien avec tout le monde ici, puis ils sont hétéros.
Hein, vous êtes homo aussi?
Ben oui.
Bon.
Ben, c'est ça. Fait qu'on s'entend bien avec tout le monde. Justine Cazin, c'est tellement intéressant de vous recevoir.
Dis-moi pas que c'est déjà fini.
Ben oui, ça a passé vite. Hein. Alors, je vais rappeler quand même donc le titre Funeste récolte, publié chez Flammarion, Québec. Justine Cazin. Grande journaliste d'enquête qui maintenant fait du roman d'enquête.
Oui. Et ça se peut que Blaise et Victor aient une suite si jamais le livre Funeste récolte se vend bien. Alors, Blaise et Victor ont déjà sur la planche peut-être une autre enquête tout aussi intéressante.
Ben, coudonc, ça c'est une nouvelle carrière. Merci beaucoup, Justine Cazin.
Ça m'a fait plaisir.
J'ai perdu ma tête. Depuis que t'es parti, j'ai pas osé t'écrire. Je pense à toi, mais j'sais pas trop quoi dire. On écoutait Netflix à tous les soirs, mais là t'as changé ton mot de passe. J'ai besoin de get high all day. Tu peux pas m'empêcher de faire ça, no way. C'est pas d'hier qu'on a plus rien à se dire. Oh, moi j'fais tout ce que j'veux. Just cause I can. Cause I lost my baby. Oh, I lost a friend. Elle était folle, 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 ça me rendait fou, fou, fou. Un téléphone venait à tous les jours. J'avais du love, 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 j'ai payé où, mais j'ai du fun, 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 alors j'm'en fous. Soulaisse-moi dans mon trou. J'sais pas, j'm'en veux où. Trois et demi, tu connais la routine. Avant j'étais bien correct, mais là c'est pas facile. C'est pas une girlfriend qu'il me faut pour avoir ma dose. C'est pas de ma faute si j'suis alcoolique. Mais si des noirs prennent borg when I take a sip. C'est genre de messed up thing qui rend maléfique, I know. Oh, moi j'fais tout ce que j'veux. Just cause I can. Cause I lost my baby. Oh, I lost a friend. Oh, moi j'fais tout ce que j'veux. Just cause I can. Cause I lost my baby. Oh, I lost a friend. Elle était folle, folle, folle. Ça me rendait fou, fou, fou. Un téléphone venait à tous les jours. J'avais du love, love, love. J'ai payé où, mais j'ai du fun, fun, fun. Alors j'm'en fous. Soulaisse-moi dans mon trou. J'sais pas, j'm'en veux où. Mais laisse-moi dans mon trou. J'sais pas, j'm'en veux où.
Thank you.
Le défi Chaîne de vie célèbre son 10e anniversaire près de chez vous. C'est un communiqué publié le 14 octobre par l'agence Perso. Les policiers et policières bénévoles de l'Association canadienne des dons d'organes et de tissus seront mis en lumière lors du 10e défi Chaîne de vie. En fait, ça s'est tenu dans des montagnes d'une quinzaine de régions du Québec pendant les fins de semaine dernière, la fin de semaine dernière, et ça va se continuer le 19 et 20 octobre prochain. Cela s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale du don d'organes. Cette journée-là a lieu le 17 octobre. Donc, ce week-end et le week-end dernier, des centaines de personnes en lien avec la chaîne de vie, de l'éducation à la transplantation, se réuniront aux quatre coins de la province pour gravir des montagnes et envoyer un message d'espoir aux 853 personnes en attente d'une greffe au Québec. Toute la population est invitée à se joindre au mouvement en participant à l'événement. Célébrant son 10e anniversaire, ce défi rassembleur se tiendra sous la présidence d'honneur du philanthrope Jean-Pierre Léger. Appuyer la chaîne de vie, c'est soutenir la mission éducative du don d'organes et de tissus en milieu scolaire. En étant éduqués à cet enjeu vital, les jeunes peuvent prendre une décision libre, éclairée et ainsi devenir des ambassadeurs de la discussion en famille, estime le vice-président de la Fondation de la famille Léger, partenaire de l'organisme depuis 2019. Rendant hommage depuis 10 ans aux différents maillons de la chaîne de vie, le défi soulignera cette année la contribution exceptionnelle des policiers et policières bénévoles de l'Association canadienne des dons d'organes et de tissus. Jouant un rôle méconnu auprès de la population, ils représentent un maillon vital de la chaîne d'intervention préhospitalière. Des policiers et policières d'une douzaine de corps policiers et de contrôle routier Québec se rendent disponibles bénévolement pour transporter des organes à toute heure du jour et de la nuit. Dans la région de Montréal, donc, le défi Chaîne de vie se tiendra ce samedi au Mont-Royal. Le lieutenant Jean Girard du service de police de la Ville de Montréal et Vincent Dubuc de la Société aéroportuaire des aéroports de Montréal agiront ensemble comme porte-étendard pour représenter leurs collègues. De Flin Flon à la scène torontoise, le parcours inspirant de handicapés gays s'est publié le 14 octobre à Radio-Canada avec les informations de Randall King. La comédie musicale de Flin Flon Cowboy, qui s'inspire de la vie de son créateur Ken Harrower, un homme homosexuel et handicapé du nord du Manitoba, sera présentée au théâtre Passe-Muraille du 19 au 2 novembre prochain, c'est à Toronto. Cette œuvre explore les thèmes d'identité et d'amour avec une touche authentique du nord canadien. Âgé de 63 ans, Ken Harrower est atteint d'anthrogrypose congénitale multiple. Il y a des mots comme ça là, qui nous font trébucher, c'est incroyable. Alors, anthrogrypose congénitale multiple. Il a utilisé un fauteuil roulant pendant toute sa vie et a dû faire face à de nombreux défis passant ses 5 premières années, principalement à l'hôpital. Après avoir déménagé à Vancouver en 1986, puis à Waterloo en 1987, pour poursuivre ses études, il a finalement affronté un aspect refoulé de sa personnalité. « Je savais depuis l'âge de 10 ans que j'aimais les garçons, mais je n'ai fait ma sortie du placard qu'en 1997-98, à 37 ans. Ne parvenant pas à s'intégrer dans la petite communauté gay de Waterloo, il a quitté cette ville en 1999 pour Toronto, où il a commencé à réaliser ses rêves, notamment de devenir acteur en suivant le programme d'art dramatique de la Toronto Film School. Tout a vraiment commencé lorsqu'il a pris contact avec Marjorie Chan, aujourd'hui directrice artistique du théâtre Passe-Muraille. En 2023, il jouait dans une pièce intitulée « Access Me », qui le mettait en scène avec 2 autres personnes homosexuelles handicapées. C'est en travaillant sur ce spectacle que M. Harrower a rencontré Debbie Patterson, directrice artistique du Sick and Twisted Theatre, basée à Winnipeg, artiste local handicapé. « Depuis que j'ai commencé à jouer de la comédie, j'ai voulu mettre mon histoire en musique », a expliqué Ken Harrower. Il a passé environ 8 ans à travailler sur cette pièce et maintenant qu'elle est sur le point d'être mise en scène, j'en suis très heureux, a-t-il déclaré. Et on espère que la pièce aura un avenir au-delà de sa présentation à Toronto et à Winnipeg, conclut Ken Harrower. Enfin, les aidants des seigneuries, soutenir les proches aidants à chaque étape, publié le 14 octobre par La Presse Plus. Je disais que j'étais correcte et que tout était sous contrôle, se souvient Michel, proche aidante de son mari, mais les semaines passaient et j'étais de plus en plus fatiguée. Cette prise de conscience, souvent tardive, l'organisme Les aidants des seigneuries en a fait sa priorité. Situé en Montérégie, il accompagne les personnes aidantes les personnes proches aidantes, pardon, dès les premiers pas de leur parcours, offrant soutien et ressources pour améliorer leur qualité de vie. Notre mission est de prévenir l'épuisement et l'isolement, explique Ginette Hood, intervenante sociale. Avec sa collègue Manon Paquette, elle propose des rencontres individuelles, des groupes de soutien, des formations et un accompagnement au deuil, le tout gratuitement. Être une personne proche aidante n'est pas naturel, ça s'apprend, rappelle Manon. Les aidants des seigneuries organisent un événement le 3 novembre 2024 à l'espace des bâtisseurs de Varennes au programme une conférence avec Marie-Claude Barrette intitulée Au rythme de la vie, c'est qu'un salon ainsi qu'un salon d'information. On s'en va en musique.
Sur la scène, j'ai laissé mon sourire, mon sourire, mon sourire. Capitaine abandonné, son navire. Pardon si j'ai préféré me détruire, quitte à risquer d'abîmer mon empire. Sur la scène, j'ai laissé mon sourire, mon sourire. Si seulement j'avais su te le dire, sans avoir à l'écrire sur ma peau. Si seulement j'avais su t'en parler, sans la peur de gâcher la photo. Si seulement j'avais su te le dire vraiment, si seulement j'avais su te le dire avant. De nos années, j'ai gardé ton sourire, ton sourire, ton sourire. C'est lui qui m'a réchauffé dans le pire, dans le pire, dans le pire. Pardon si j'ai préféré retenir les sanglots que je portais sans le dire. De nos années, j'ai gardé ton sourire, ton sourire.
La chanson « Si seulement » de Kenji.
Je vais parler de météo.
Ah!
Oui. Alors, c'est un mot de trois lettres. Brrr.
Pluie.
Non, pluie, ça... Là, Mathieu, il va falloir que tu retournes faire tes mathématiques. Hein? Ben oui, ben il y a de la pluie aussi. Hein? Plus dans l'Est, je pense qu'à Montréal, il y a des risques, des, ils appellent ça des possibilités, mais c'est plus des probabilités dans l'Est du Québec. Alors... c'est froid aujourd'hui. Puis il va falloir s'habituer, hein, parce que, oh là là, dans pas longtemps, c'est novembre, puis après ça, c'est décembre, et puis on va sortir les pelles, les grattes. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'ai parti ma thermopompe hier. J'avoue qu'il faisait pas mal froid dans mon petit condo. Ah, ça me tentait pas, mais là, c'est le temps. De toute façon, c'était pas pour moi, c'était pour mon chien. Je voulais pas qu'il y ait froid. Moi, ça allait. Bon, donc, maximum au plus 10 degrés dans nos régions, sauf peut-être Halifax où c'est 12. Il y a de la neige dans l'Ouest de l'Ontario qui s'en vient aujourd'hui, notamment Thunder Bay. Dans l'ouest du pays, ben, il va faire chaud, hein, jusqu'à 22 degrés à Regina, mais ne vous en faites pas. Vous allez aussi y goûter bientôt. Le froid s'en va chez vous. Et il y a des possibilités d'averses sur la côte ouest, notamment à Vancouver et Victoria. C'est la chronique livre après la pause et puis la chronique économie un petit peu plus tard. À tout de suite.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot. Chanson libre de Claude Pelgag.
C'est dans la Presse Plus ce matin, c'est à compter d'aujourd'hui que les 80 000 membres de la FIC, la Fédération intersyndicale, je me rappelle plus en tout cas, de la santé au Québec, qui sont appelés à se prononcer sur la recommandation du conciliateur en vue du renouvellement de leur convention collective. Le vote des membres se tient à compter de ce soir à 20h jusqu'à jeudi 20h. Il survient après la tenue d'assemblées générales qui ont eu lieu dans les semaines précédentes pour informer les membres du contenu de la proposition du conciliateur. Alors, la Fédération interprofessionnelle de la santé représente la grande majorité des infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques au Québec. Il s'agit bien d'une proposition recommandée par le conciliateur et non d'une entente de principe. Cette recommandation avait été présentée par le conciliateur comme un équilibre raisonnable entre les parties, avait rapporté la FIC lorsque cette proposition avait été annoncée. Si cette recommandation était entérinée par les membres, elle deviendrait la convention collective de la FIC. Si elle ne l'était pas, les parties devraient vraisemblablement revenir à la table des négociations. D'ailleurs, une entente de principe était intervenue entre les parties, on se rappelle, hein, mais ce sont les membres qui l'ont rejetée dans une proportion de 61%. C'était le printemps dernier. Et depuis, bien, les négociations se poursuivaient, mais semblaient stagner. Alors, dans ce rejet, dans le cadre des discussions qui ont suivi, la mobilité exigée des infirmières a été davantage banalisée selon le texte de présentation de la FIC qui a été soumis aux membres. Cette question de mobilité, des déplacements des infirmières d'une unité de soins à l'autre, voire d'un établissement à l'autre, était au cœur du litige et la principale raison pour laquelle l'entente de principe avait été rejetée, donc à suivre. J'ai le temps de, peut-être d'une autre petite nouvelle dans le domaine de la santé. Le Journal de Montréal souligne que l'aspect aux soins de santé s'est dégradé sous la coalition Avenir Québec, la CAQ. C'est selon, c'est ce que disent une majorité de Québécois qui se tournent de plus en plus vers le privé. Et c'est ce qu'on a appris d'un nouveau sondage Léger. Le constat du coup de sonde est sans appel. Seulement 5 % des répondants ont noté une amélioration de l'accès aux soins de santé au Québec au cours des 5 dernières années. À l'inverse, 56 % affirment que la situation s'est détériorée. Donc, la différence entre les deux est de moins de 51 % et de moins 51 % excusez-moi. Et donc, c'est une perception très négative, souligne le vice-président exécutif de la firme Léger, Sébastien Dallaire. Le tiers des personnes sondées n'a pas vu de changement. Mais il faut se souvenir qu'il y a 5-6 ans, les Québécois étaient déjà négatifs par rapport au système de santé, rappelle M. Dallaire. Depuis 2022, le ministre Christian Dubé a mis en branle une vaste réforme qui a récemment débouché sur la création de l'Agence Santé Québec et la mise en place du guichet d'accès à la première ligne. Au cours des 5 dernières années, les répondants ont été plus nombreux qu'auparavant à faire appel au privé pour recevoir des soins médicaux, que ce soit à travers une assurance ou en payant directement de leur poche. Il peut s'agir d'un éventail de services tels que le fait de payer pour un vaccin, de passer des tests, de consulter une infirmière spécialisée ou un médecin. Ainsi, 42 % ont eu recours à des services non couverts par la Régie d'assurance maladie du Québec, contre seulement 25 % en 2019. Cette hausse de 17 % est une différence significative d'un point de vue statistique, affirme M. Dallaire. Il rapporte toutefois, un bémol en rappelant que la mémoire peut jouer des tours aux personnes sondées. On ne se rappelle pas d'avoir payé 300-400 $ pour consulter un médecin au privé. Je sais pas, moi, je m'en rappelle habituellement.
Redis-moi comment je vais suivre tes mouvements. Est-ce qu'on peut parler après? Aide-moi s'il te plaît. Je vais sentir le temps me perdre dans l'instant. Dans tes yeux tout est parfait. Je veux faire des excès. Fais-moi oublier mon nom. Si je sens, je convois des étoiles. Ouh, 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 yeah. Rappelle-moi tout ce qui est bon. Si je sens, je conçois un animal. Ouh, 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 yeah. Aime-moi maintenant. Fuck mon make-up. Regarde-nous. Mais je m'en fous tant que mon cœur te laisse passer vidé sur le plancher sans le ramasser. Je connais des amours à sens unique, je sais, je la connais la musique. Mais avec toi c'est vrai et c'est plus beau que ça. Fais-moi oublier mon nom. Ce soir je convois des étoiles.
Laurence Nerbonne, la chanson « Je ne sais quoi ».
Je ne sais quoi. Mais là, on va aller faire un petit tour sur, dans la chronique littéraire d'Anne-Marie Aubin. Salut Anne-Marie.
Bonjour.
Alors, il y a un roman adolescent dont tu veux nous parler aujourd'hui.
Oui, c'est la première fois que les éditions Cheval Daou publient un roman destiné aux adolescents. Et j'ai toujours un peu de mal à dire un roman pour adolescents, parce qu'en fait, c'est un roman sur l'adolescence. Puis je pense que tout le monde peut lire ça. C'est, si on a des adolescents autour de nous, on a tous été adolescents. Alors, c'est un roman de 277 pages. Fait que c'est pas un roman léger là, comme d'autres romans jeunesse. L'illustration de la page couverture, c'est de Catherine Oslo, qui est une BDiste et qui a dans une main un cœur et dans l'autre une guimauve qu'on fait griller au feu. Mmh. Et ça décrit finalement l'été de cette adolescente-là qui s'appelle Bernadette. Alors, c'est un roman de Fanny Britt qui a publié des romans adultes chez Cheval Daou, Nos Maisons, Les Maisons, puis elle a publié aussi Faire les Sucres. Et puis, Faire les Sucres a mérité le prix du gouvernement général pour la catégorie roman en 2021. Puis, je pense que Les Maisons, ça a été aussi finaliste au prix des collégiens. Donc, elle a, c'est sa maison, elle est habituée de publier là. Puis, elle a eu l'idée d'écrire ce roman-là, je pense, pendant la pandémie. Alors, une autre belle chose qui est sortie de la pandémie, finalement. Mais elle est surtout une dramaturge, une traductrice, une scénariste. Et pour les jeunes, peut-être que vous connaissez Jane, Le Renard et moi, roman graphique paru à la Pastèque.
Oui, ça me dit quelque chose, oui.
Ça, c'est un roman illustré par Isabelle Arsenault qui est traduit en 13 langues, qui a gagné de nombreux prix. Et c'est peut-être ça qui l'a amené vers la jeunesse. Puis je dirais qu'il y a une parenté entre Jane et puis ce roman-là. Elle a fait ensuite Louis parmi les spectres, un roman graphique, même chose, mais qui abordait cette fois-ci l'alcoolisme, donc sujet rarement abordé dans la littérature pour les enfants, et puis qui s'est mérité de nombreux prix aussi, et puis Truffe. Donc, elle a fait trois romans graphiques qui s'adressent aux jeunes, donc c'était comme si elle avait fait le suivi, qu'elle avait amené ses lecteurs ailleurs après les avoir séduits avec ses romans graphiques, et c'est une série jeunesse qu'elle a fait aussi à la courte échelle. Donc, ce roman-là, que tout le monde peut apprécier, aborde l'adolescence, particulièrement l'anxiété. Et pour côtoyer des adolescents, je peux dire que depuis la pandémie, l'anxiété chez les adolescents a vraiment beaucoup augmenté.
Et c'est documenté, dirait... Anne-Marie, c'est vraiment documenté. Je pense qu'il y a eu plusieurs études là, qui sont sorties depuis la pandémie qui démontrent que le niveau d'anxiété chez les jeunes a augmenté depuis la pandémie. Là.
Donc, le fait que l'héroïne soit anxieuse, c'est un peu probablement le message qu'elle voulait laisser, sauf que l'héroïne, elle, elle ne sait pas qu'elle fait de l'anxiété. Elle, l'histoire d'abord se déroule sur un été, donc juin, juillet ou septembre, divisé en 15 chapitres, et c'est raconté par l'héroïne qui s'appelle Bernadette. Donc, à la fin juin, à son école, il y a un concert, puis elle a comme un rythme cardiaque qu'elle ne peut pas contrôler, là. Elle fait quelque chose comme de l'arythmie, puis elle est convaincue là, qu'elle a le cœur fragile, puis qu'elle peut faire une crise de cœur n'importe quand, elle garde ça pour elle. Elle va voir sur Internet toutes les façons dont ça peut se finir. Et elle est très angoissée avec ça, puis elle garde ça pour elle. Donc, ses parents, ensuite, ils partent pour leur maison d'été à Kamouraska. Et à tout coup, elle est en train de prendre son pouls. Elle s'inquiète de « est-ce que c'est aujourd'hui que je vais mourir? » Donc, si elle avait consulté, on lui aurait dit « tu as fait un peu d'anxiété, tu as peut-être même paniqué, mais tu sais, tu vas pas mourir. » Mais là, elle est convaincue qu'elle va mourir. Donc, elle s'en va passer 2 mois avec ses parents à Kamouraska. Ses parents, c'est des profs de cégep, donc ils ont beaucoup de vacances. Puis là, elle va trouver un emploi dans un resto. Puis, évidemment, elle n'est pas à l'abri d'autres crises comme ça. Alors, à un moment donné, elle va être au travail et elle va sentir ça venir. Et là, je décris, je la cite. La lumière, elle dit, tout à coup, la lumière du jour inonde la fenêtre et me semble avoir la puissance de 1000 projecteurs. La vitre perd sa forme rectangulaire, les angles s'amollissent, les couleurs fondent, une vague de chaleur me submerge des cheveux jusqu'au ventre, si puissante que je crois être entrée dans un sauna à mon insu. À la clarté aveuglante succède une grisaille embrouillée, comme quand on diminue la luminosité d'un écran de téléphone. C'est maintenant que je meurs. Alors là, elle est en grosse crise de panique, puis elle va prendre congé, puis elle va dire qu'elle a la gastro. Elle va mentir parce qu'elle ne veut vraiment pas parler de son malaise cardiaque imaginaire, finalement. Alors, cette jeune fille qui a 14 ans est en pleine crise. Ça, c'est vraiment à l'image de toutes les, les ados qu'on connaît, qui sont angoissés, qui parlent pas beaucoup, mais qui imaginent beaucoup et qui culpabilisent, qui négocient l'heure à laquelle rentrer parce qu'elle est mineure quand même. Et ce qui est bien, c'est que les amitiés qu'elle va développer au resto où elle travaille sont des amitiés de région, des amitiés d'été qui sont très différentes de ce qu'elle pouvait vivre en ville. Alors, elle va prendre confiance en elle, elle va traverser des moments difficiles et puis elle va donc revenir en ville avec un comportement très différent. Et son amie en ville, qui s'appelle Lina, lui a dit que chaque mois d'été vaut 6 mois du reste, par rapport au reste de l'année, dans le sens que les gens grandissent plus physiquement et psychologiquement. Puis c'est ce qui va lui arriver finalement. Mais l'habileté de Fanny Britt là-dedans, c'est qu'elle va installer des mystères autour de certains personnages. Par exemple, son ami qui s'appelle Arthur, on vient passer quelques jours avec ses parents et puis ils discutent. Lui, il se lève très tard. Elle dit « J'aimerais ça, moi, me lever tard comme toi. » Il lui dit « Au moins, ça veut dire que tu as envie de vivre. » Alors là, elle ne sait pas trop à quoi répondre à ça, mais ça l'inquiète un petit peu. Puis ensuite, elle entend sa mère pleurer la nuit. Alors là, on va imaginer 1000 scénarios de qu'est-ce qui arrive à ses parents. Sa sœur aînée vient passer une fin de semaine au chalet de Kamouraska et lui dit « As-tu remarqué quelque chose avec les parents? T'as trop sympa, c'est pas de ta faute. » Là, elle a dit « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? » Ben, elle dit « Disons qu'ils ont des problèmes que les vieux peuvent avoir. » Là, son imaginaire travaille encore plus. Elle va vraiment s'inquiéter par rapport à ses parents. Puis elle va même prendre une distance par rapport à eux. Alors donc, c'est juste à la fin qu'on connaît finalement l'énigme autour de ces personnages-là. Mais c'est ce qui nous tient en haleine aussi. Et elle aussi s'inquiète de ces gens-là. Donc, c'est un magnifique roman avec plein de références à la littérature, au cinéma, à la musique. Et tout ça fait référence à la culture des parents et à la culture des gens qu'elle fréquente. Par exemple, il est beaucoup question d'un magnifique film qui s'appelle « La société des poètes disparus », qui met justement en scène des adolescents qui vont vivre un drame dans ce film-là. Et tout le monde autour d'elle dit que c'est le meilleur film d'adolescent qui existe. Même sa mère va lui dire « Je n'aurais jamais cru que quelque chose d'aussi immatériel que la poésie pouvait concrètement me sauver la vie. » Donc, elle a adhéré à ce film-là étant très jeune et ça l'a aidé sa mère à traverser son anxiété parce qu'elle aussi, comme tout le monde, à l'adolescence, était angoissée, savait pas ce qui allait y arriver. Et puis, le décor est magnifique parce qu'on est à Kamouraska, dans le bas du fleuve. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Kamouraska.
Oui, récemment même, j'ai des amis là-bas que je suis allé visiter, oui.
Bien, au village, il y a un magnifique petit café qui s'appelle Côté Est.
Oui. Et je ne connais pas, mais j'ai une idée où ça se trouve, oui.
C'est dans l'ancien presbytère à côté de l'église. Et là, elle décrit tout ça, là, la rue avec la savonnerie, puis les belles maisons ancestrales. Et elle va sur la terrasse de Kamouraska et on reconnaît tout à fait le bistrot Côté Est. Puis elle dit, la lumière baisse, c'est le plus beau moment de la journée. Tout devient orange, le ciel, le fleuve, la peau. Les voitures étincellent comme des lucioles, même celles qui sont sales. Alors, elle voit comment le décor est reposant et ça l'aide un petit peu dans son problème. Mais tout à coup, elle se met à penser à sa mère qui doit dire, bon, qu'est-ce qui est arrivé? Elle est en retard, elle s'est peut-être fait agresser. Puis elle trouve que sa mère, elle s'inquiète pas.